question. J'ai l'impression d'avoir perdu la question originelle. Réponse. Eh bien, il est difficile de garder Dieu sur une seule piste. Je suis en quelque sorte expansif. Voyons si nous pouvons revenir sur nos pas. Ah oui, que faire à propos des moins fortunés? D'abord, décide qui et ce que tu es en relation avec eux. Deuxièmement, si tu choisis de faire l'expérience de toi-même en tant que secours, aide, amour, compassion et bienveillance, alors vois comment tu peux le mieux être ces choses. Et remarque que ta capacité d'être ces choses n'a rien à voir avec ce que d'autres sont ou font. Parfois, la meilleure façon d'aimer quelqu'un et la plus grande aide que tu puisses lui donner, c'est de le laisser seul ou de lui donner le pouvoir de céder. C'est comme un festin, un buffet, et tu peux lui donner une grosse portion de lui-même. Rappelle-toi que le plus grand service que tu puisses rendre à quelqu'un, c'est de le réveiller, de lui rappeler qui il est vraiment. Il y a bien des façons de le faire. Parfois, avec un petit peu d'aide, une poussée, un petit coup, et parfois, avec une décision de le laisser suivre son cours, son chemin, sa voie, sans aucune interférence ni intervention de ta part. Tous les parents sont au courant de ce choix et se tourmentent tous les jours à ce propos. Ce que tu as l'occasion de faire pour les moins fortunés, c'est de les appeler, de les rappeler, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils soient d'un esprit nouveau à propos d'eux-mêmes. Et toi aussi, tu dois avoir un esprit nouveau à leur égard, car si tu les considères comme des infortunés, c'est ainsi qu'ils se verront. Le grand cadeau de Jésus était qu'il voyait chacun comme celui qu'il était vraiment. Il refusait d'accepter les apparences. Il refusait de croire ce que d'autres croyaient d'eux-mêmes. Il avait toujours une pensée plus élevée et il y invitait toujours les autres. Mais il respectait également l'espace où les autres choisissaient d'être. Il ne les obligeait pas à accepter son idée supérieure. Il l'attendait tout simplement comme une invitation. Il avait affaire aussi à la compassion. Et si d'autres choisissaient de se voir eux-mêmes comme des êtres ayant besoin d'assistance, ils ne les rejetaient pas à cause de leur mauvaise évaluation, mais leur permettaient d'aimer leur réalité et les aidaient avec amour à courir leur chance. Car Jésus savait que, pour certains, la voie la plus rapide vers qui ils sont était la voie qui passait par qui ils ne sont pas. Il ne qualifiait pas cette voie d'imparfaite et ainsi ne la condamnait pas. Il voyait plutôt cela aussi comme étant parfait et ainsi encourageait chacun à être exactement qui il voulait être. Par conséquent, tous ceux qui demandaient de l'aide à Jésus en recevaient. Il ne refusait personne, mais il prenait toujours soin de voir à ce que l'aide qu'il donnait soutenait le plein et honnête désir d'une personne. Si une personne recherchait l'illumination de façon authentique, exprimant honnêtement son ouverture à passer au niveau suivant, Jésus lui donnait la force, le courage, la sagesse de le faire. Il se donnait, à juste titre, en exemple, et encourageait les gens, en premier lieu, à avoir foi en lui. Il disait qu'il ne les égarerait pas. Beaucoup mirent leur foi en lui, et à ce jour, il aide ceux qui invoquent son nom. Car son âme s'est engagée à réveiller ceux qui cherchent à être pleinement éveillés et pleinement vivants en moi. Mais le Christ avait pitié de ceux qui ne le faisaient pas. Par conséquent, il rejetait toute attitude hautaine et, comme son Père au ciel, ne porta jamais aucun jugement. L'idée que Jésus se faisait de l'amour parfait était d'accorder exactement à toutes les personnes toute l'aide qu'elles demandaient. Après leur avoir dit le genre d'aide qu'elle pouvait obtenir. Il ne refusait jamais d'aider qui que ce soit, et surtout pas en pensant « comme on fait son lit, on se couche ». Jésus savait que s'il accordait aux hommes l'aide qu'ils demandaient, plutôt que seulement celle que lui voulait leur offrir, il les habillait dans le pouvoir qu'ils étaient disposés à recevoir. C'est ainsi que font tous les grands maîtres, ceux qui ont parcouru votre planète dans le passé et ceux qui la parcourent maintenant. Question. Je suis confus à présent. Comment va-t-il à l'encontre de la prise de pouvoir personnelle que d'offrir de l'aide? Quand est-ce à l'encontre de la croissance d'un autre plutôt qu'à son avantage? Réponse. Lorsque ton aide est offerte de telle façon qu'elle crée une dépendance continue plutôt qu'une indépendance rapide. Lorsque tu permets à un autre, au nom de la compassion, de commencer à compter sur toi plutôt que sur lui-même. Ce n'est pas de la compassion, c'est de la compulsion. Tu ressens de la compulsion envers le pouvoir, parce que ce genre d'aide est en réalité une passion du pouvoir. Cette distinction peut être très subtile ici, et parfois, tu ne sais même pas que tu entretiens cette passion du pouvoir. Tu crois vraiment que tu fais de ton mieux pour aider quelqu'un d'autre, mais fais attention de ne pas tout simplement chercher à créer ta propre valeur personnelle. Car dans la mesure où tu laisses les autres te rendre responsable d'eux, dans cette mesure, tu leur as permis de te rendre puissant. Et cela, bien sûr, te fait te sentir précieux. Cependant, ce genre d'aide est un aphrodisiaque qui séduit les faibles. Le but est d'aider les faibles à devenir forts, et non à laisser les faibles s'affaiblir davantage. C'est le problème de bien des programmes gouvernementaux d'assistance, car ils font souvent la deuxième chose plutôt que la première. Les programmes gouvernementaux peuvent s'auto-perpétuer. Leur objectif peut être tout autant de justifier leur existence que d'aider ceux qu'ils sont censés aider. S'il y avait une limite à toute assistance gouvernementale, les gens recevraient de l'aide lorsqu'ils en auraient véritablement besoin, mais ne pourraient pas s'accrocher à cette aide et la substituer à leur propre autonomie. Les gouvernements comprennent que l'aide, c'est du pouvoir. C'est pourquoi les gouvernements offrent autant d'aide à autant de personnes qu'ils le peuvent, car plus le gouvernement aide de gens, plus les gens aident le gouvernement. Celui que le gouvernement soutient, soutient le gouvernement. Question. Alors, il ne devrait y avoir aucune redistribution de la richesse ? Le manifeste communiste est vraiment satanique ? Réponse. Bien sûr, Satan n'existe pas, mais je comprends ce que tu veux dire. L'idée qui se trouve derrière l'affirmation « de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins » n'est pas mauvaise, mais belle. C'est tout simplement une autre façon de dire que tu es le gardien de ton frère. C'est l'application de cette idée magnifique qui peut devenir l'aide. Partager doit être un mode de vie, et non un édit imposé par le gouvernement. Le partage devrait être volontaire, et non forcé. Question. Mais nous y voilà encore. À son meilleur, le gouvernement est le peuple, et ses programmes ne sont que des mécanismes par lesquels les gens partagent avec bien d'autres, au sein de leur mode de vie. Et j'affirmerai que les gens, collectivement, à travers leur système politique, ont choisi de le faire parce que les gens ont observé, et l'histoire l'a montré, que les nantis ne partagent pas avec les démunis. Le paysan russe aurait pu attendre jusqu'au calende grec que la noblesse russe partage sa richesse, habituellement accumulée et accrue grâce au dur labeur des paysans. Les paysans ne recevaient que le strict minimum pour survivre, et l'incitatif, entre guillemets, pour continuer à cultiver la terre et à enrichir les barons fonciers. Tu parles d'une relation de dépendance. C'était un arrangement du genre « je ne t'aiderai que si tu m'aides », plus exploiteur et plus obscène que tout ce qui a jamais été inventé par un gouvernement. C'est contre cette obscénité que les paysans russes se sont révoltés. Un gouvernement qui faisait en sorte que tous les gens étaient traités de façon égale est né de la frustration des gens que les nantis ne donnaient pas volontairement aux démunis. Comme le disait Marie-Antoinette, des masses affamées qui criaient sous sa fenêtre en haillons, tandis qu'elle se reposait dans une baignoire sertie d'or et posée sur un piédestal décoré de pierres précieuses en grignotant des raisins importés. Elle disait « qu'ils mangent de la galette ». Voilà l'attitude contre laquelle les opprimés ont protesté. C'est la situation qui a causé la révolution et créé des gouvernements dits oppressifs. Les gouvernements qui prennent aux riches et le donnent aux pauvres sont qualifiés d'oppressifs, tandis que les gouvernements qui ne font rien alors que les riches exploitent les pauvres sont répressifs. Demande aux paysans du Mexique, même aujourd'hui. On dit que 20 ou 30 familles, l'élite riche et puissante, dirigent littéralement le Mexique, principalement parce qu'elles le possèdent, tandis que 20 ou 30 millions de Mexicains vivent dans une privation extrême. Alors, en 1993-94, les paysans ont entrepris une révolte, cherchant à obliger le gouvernement élitiste à reconnaître son devoir d'aider les gens en leur fournissant les moyens de vivre avec au moins un peu de dignité. Il y a une différence entre des gouvernements élitistes et des gouvernements, entre guillemets, du « par et pour le peuple ». Les gouvernements du peuple ne sont-ils pas créés par des gens en colère, frustrés par l'égoïsme fondamental de la nature humaine ? Les programmes gouvernementaux ne sont-ils pas créés comme remède pour le manque de volonté de l'homme de fournir lui-même un remède ? N'est-ce pas la genèse des lois sur le logement équitable, les statuts sur le travail de l'enfant, les programmes de soutien aux mères et aux enfants dépendants ? La sécurité sociale n'était-elle pas une tentative pour le gouvernement de fournir aux gens âgés quelque chose que leur propre famille ne voulait ou ne pouvait fournir ? Comment réconcilions-nous notre haine du contrôle gouvernemental avec notre manque de volonté de faire quoi que ce soit que nous n'avons pas à faire lorsqu'il n'y a aucun contrôle ? On dit que certains mineurs de charbon travaillaient dans des conditions horribles avant que les gouvernements n'exigent des propriétaires de mines, riches à craquer, de nettoyer leurs sales mines. Pourquoi les propriétaires ne le faisaient-ils pas eux-mêmes ? Parce que cela aurait réduit leurs profits ? Et les riches ne se souciaient pas du nombre de pauvres qui mouraient dans des mines dangereuses pour entretenir la circulation et la croissance des profits ? Les compagnies versaient des salaires d'esclaves aux employés débutants avant que les gouvernements n'imposent des exigences salariales minimales. Ceux qui appuient un retour au bon vieux temps, entre guillemets, disent « Et alors, ils fournissaient des emplois, non ? Et qui prend les risques ? Le travailleur ? Non, l'investisseur, le propriétaire prend tous les risques. Alors c'est lui qui doit récolter la plus grande récompense. » Quiconque croit que les ouvriers dont dépendent les propriétaires doivent être traités avec dignité se fait appeler communiste. Quiconque croit qu'il ne faut pas refuser un logement à quelqu'un à cause de la couleur de sa peau, se fait traiter de socialiste. Quiconque croit qu'il ne faut pas refuser une femme des occasions d'emploi ou une promotion, tout simplement parce qu'elle n'est pas du bon sexe, se fait appeler féministe radicale. Et quand les gouvernements, à travers leurs représentants élus, procèdent à la résolution de ces problèmes que les gens de pouvoir dans la société refusent mordicus de régler eux-mêmes, ces gouvernements se font qualifier d'oppressifs. Jamais par des gens qu'ils aident, incidemment. Seulement par les gens qui refusent de fournir l'aide eux-mêmes. C'est plus évident que jamais dans le domaine des soins de santé. En 1992, un président américain et sa femme ont décidé qu'il était injuste et inconvenant que des millions d'Américains n'aient aucun accès aux soins de santé préventifs. Cette idée lança un débat sur les soins de santé qui catapulta même la profession médicale et l'industrie de l'assurance dans la mêlée. La question véritable n'est pas quelle solution était la meilleure. Le plan proposé par l'administration ou le plan proposé par l'industrie privée. La question véritable, c'est pourquoi l'industrie privée n'a-t-elle pas proposé sa propre solution il y a longtemps ? Je vais te dire pourquoi. Parce qu'elle n'avait pas à le faire. Personne ne se plaignait et l'industrie était menée par le profit. Le profit, le profit, le profit. Voici donc où je veux en venir. Nous pouvons railler, crier et nous plaindre autant que nous le voulons. En vérité, les gouvernements fournissent des solutions lorsque le secteur privé ne veut pas en fournir. Nous pouvons également prétendre que les gouvernements font ce qu'ils font à l'encontre des volontés des gens, mais aussi longtemps qu'ils contrôleront le gouvernement, comme c'est le cas aux États-Unis, celui-ci continuera de produire et de requérir des solutions aux problèmes sociaux parce que la majorité des gens ne sont pas riches et puissants, et par conséquent, ne peuvent légiférer pour eux-mêmes ce que la société ne leur donne pas volontairement. Ce n'est que dans les pays où la majorité des gens ne contrôlent pas le gouvernement que le gouvernement fait peu de choses ou rien du tout à propos des inégalités. À quel moment, donc, le gouvernement devient-il excessif ? Et à quel moment est-il insuffisant ? Et où et comment atteindrons-nous l'équilibre ? Réponse : Ouh, je ne t'ai jamais entendu parler autant. C'est ta plus longue intervention. Question : Tu as dit que ce livre allait traiter de certains des grands problèmes planétaires qu'affronte la famille de l'homme. Je crois bien en avoir exposé un gros. Réponse. Et de façon éloquente, oui. Tout le monde, de Tybee à Jefferson et à Marx, a essayé de le résoudre, depuis des siècles.